Imaginons une voiture électrique, disons qu'elle roule sur l'autoroute.
D'accord.
Et là, au lieu de vider continuellement sa batterie juste pour maintenir sa vitesse, elle arrête soudainement de lutter contre la friction interne de son propre moteur. En fait, c'est comme si, d'un coup, on relâchait un frein à main invisible qui était serré depuis le tout début de l'ère industrielle, en gros.
C'est une super analogie et c'est exactement la promesse vertigineuse de ce nouveau modèle d'ingénierie dont on va parler. Un modèle qui prétend, ni plus ni moins, contourner une règle fondamentale de la physique.
Une règle intouchable depuis près de 200 ans, quand même. Et c'est pour ça que notre exploration d'aujourd'hui est, je pense, super excitante. On va se plonger dans le document source qui s'appelle Infinix pour les nuls, qui est basé sur les travaux d'un certain Christophe Tétard, donc chez Faraday Labs, et le projet Atlas.
Ouais, tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de s'émerveiller devant des grandes promesses technologiques, c'est vraiment de décortiquer cette architecture sans tomber dans le jargon incompréhensible.
Exactement.
On veut comprendre comment ça marche, étape par étape, et surtout séparer la vraie science de ce qui pourrait ressembler, disons, à de la magie pure et simple.
Parce que, on va être clair d'emblée, l'affirmation centrale a vraiment de quoi rendre n'importe quel physicien super sceptique. Je veux dire, comment une règle établie dans les années 1830 pourrait soudainement être esquivée aujourd'hui, au XXIe siècle, sans briser littéralement les lois de la thermodynamique?
C'est la question à 1 million de dollars.
C'est la question qui va nous guider, oui. Mais avant de comprendre la solution, je pense qu'il faut vraiment poser le problème. Ce fameux frein invisible dont je parlais, d'où il sort exactement?
Bah, pour comprendre cette anomalie qui est Infinix, faut revenir à la base. Vraiment la base du moteur électrique classique. Le principe, il n'a pas bougé depuis le 19e siècle.
Ouais.
Que ce soit le petit ventilateur sur ton bureau ou le moteur géant d'un TGV, la logique est la même. On envoie un courant électrique dans une bobine de cuivre.
Le stator, c'est ça.
C'est ça, le stator. Et ce courant, il va créer un champ magnétique. C'est un peu comme une bulle d'énergie invisible.
D'accord.
Et ce champ va interagir avec des aimants qui sont placés sur la partie mobile, le rotor, pour les attirer ou les repousser. Et paf, ça tourne. On a un mouvement mécanique.
Jusque-là, franchement, la logique est implacable. On met de l'énergie électrique, le courant fait une force magnétique et on obtient du mouvement. Mais, et c'est là que ça se corse, cette architecture classique, elle cache un effet secondaire assez redoutable.
Ah oui, complètement. Dès que le moteur se met à tourner, il se transforme malgré lui en générateur. En fait, il devient sa propre dynamo.
Ce qui n'est pas du tout le but recherché.
Non, c'est même le drame de l'ingénierie électrique mondiale. Michael Faraday l'a observé en 1831.
D'accord.
Et Heinrich Lenz en a fait une vraie loi mathématique stricte 3 ans plus tard, en 1834. La physique dit que quand un aimant bouge près d'une bobine de cuivre, ce mouvement crée un courant dans la bobine.
C'est le principe des éoliennes, en fait.
Exactement, ou des barrages hydroélectriques. Sauf que dans notre moteur, on ne veut pas générer du courant.
On veut juste avancer.
Voilà. Mais ce nouveau courant généré par la rotation du moteur, il va circuler dans le sens opposé au courant qu'on utilise pour l'alimenter. C'est ça qu'on appelle la force contre-électromotrice ou le back IMF en anglais.
Ok. Pour bien visualiser ce truc, je trouve que la meilleure analogie, c'est celle du vélo qu'on trouve dans les sources. Imaginons quelqu'un qui fait du vélo sur du plat.
Oui.
Au début, tranquille, c'est facile, mais c'est comme si on avait attaché un élastique géant à l'arrière de son vélo. Plus la personne pédale vite, donc plus le moteur tourne vite, et plus l'élastique se tend et la tire vers l'arrière.
C'est exactement ça.
Du coup, pour juste maintenir sa vitesse de croisière, faut fournir de plus en plus d'énergie juste pour compenser cet élastique. C'est un frein que la machine s'inflige à elle-même en permanence. C'est fou.
C'est fou. Mais c'est important de réaliser que ce frein, c'est pas un défaut de design. C'est pas un ingénieur qui a fait une erreur il y a 2 siècles.
Ah non.
Non, c'est la nature qui impose ça. C'est la garantie absolue que le principe de conservation de l'énergie est respecté. En physique, on est souvent que l'univers déteste les déjeuners gratuits.
Ouais, rien ne se perd, rien ne se crée.
Voilà. Un moteur ne peut pas donner plus d'énergie mécanique qu'il n'en consomme en électricité. Et ce frein interne, le bag MF, c'est le mécanisme de sécurité de l'univers pour équilibrer l'équation.
Ce qui soulève une objection majeure pour le coup. Si ce frein, c'est vraiment la police d'assurance de la thermodynamique, comment l'architecture Infinix peut dire « coucou, on l'a éliminé sans tricher avec la physique ».
C'est là qu'on rentre dans la magie de leur ingénierie.
Parce que si on enlève le frein, on casse la loi de conservation, non?
Pas avec leur méthode. Les sources détaillent une solution qui n'est pas de la magie quantique, mais une manipulation hyper habile des matériaux. En gros, ils ont totalement repensé la façon dont la bobine et l'aimant discutent entre eux.
Ok, et comment on fait ça?
Le point de bascule, c'est l'utilisation d'un matériau très précis, l'aimant en néodyme.
Les aimants ultra-puissants, là?
C'est ça. Ce sont les aimants permanents les plus costauds sur le marché. C'est le cœur des éoliennes modernes, des moteurs de voitures électriques haut de gamme. Et Faraday Labs utilise une propriété très spéciale de ces terres rares.
Laquelle?
Quand ils sont face à une bobine sur une certaine plage de fonctionnement, ils se comportent magnétiquement presque exactement comme si c'était de l'air.
Attends, pause. Là, mon intuition bloque un peu. Un aimant en néodyme, c'est d'une puissance monstrueuse. Si t'en approches deux de la mauvaise façon, ça peut littéralement t'écraser les doigts.
Ah oui, faut faire très attention.
Du coup, comment c'est physiquement possible qu'une simple bobine puisse rendre une force aussi brutale, totalement indétectable, comme de l'air?
Je sais, c'est hyper contre-intuitif, mais c'est un phénomène qui est parfaitement mesuré et documenté en laboratoire. L'astuce, c'est le principe de superposition.
Superposition, ok.
En gros, la machine va envoyer une impulsion électrique ultra précise dans une bobine qui entoure cet aimant. Et ce courant crée son propre champ magnétique, qui est l'image miroir exacte du champ naturel de l'aimant en néodyme.
Ah, l'image miroir.
Voilà, les deux champs se superposent et, mathématiquement, s'annulent. De l'extérieur, les instruments ne détectent plus rien. L'aimant devient magnétiquement invisible.
C'est l'analogie des vagues, en fait. J'aime beaucoup cette image. Prenons deux vagues géantes en mer.
Ouais, exactement la même taille.
Voilà, même taille, même puissance. L'une est un creux qui descend et l'autre, c'est une crête qui monte. À la milliseconde précise où elle se percute de front, la surface de l'eau devient, bam, parfaitement plate.
C'est ça. Les deux énergies colossales sont toujours là dans l'eau, mais à se pondre en contre, leur effet extérieur est annulé. Le calme plat.
Et c'est un concept nouveau en physique, ça?
Pas du tout. Historiquement, le principe de superposition, c'est super classique. On l'utilise même au quotidien. Tu vois les portes de sécurité avec des verrous électromagnétiques?
Ah oui, dans les immeubles de bureaux.
C'est la même technologie. Le vrai coup de génie d'Infinix, c'est d'avoir réussi à synchroniser cette annulation à l'intérieur d'un moteur qui tourne à très haute vitesse.
Mais parce que j'essaye de garder mon esprit critique, il y a une objection qui me vient. Si on bombarde un aimant super puissant avec un champ magnétique opposé pour l'annuler, est-ce qu'à force on va pas juste le flinguer? Le démagnétiser de façon permanente?
C'est une excellente question et je te rassure, les ingénieurs du projet Atlas l'ont entendu des centaines de fois.
J'imagine oui.
Et la réponse est non. C'est là toute la subtilité. L'annulation est 100% réversible.
D'accord.
Le courant qu'on applique, il est calibré au millimètre pour rester juste en dessous du seuil de destruction de l'aimant. La structure interne du néodyme ne bronche pas.
Donc c'est temporaire?
Totalement. Dès qu'on coupe le courant dans la bobine, la vague d'annulation disparaît et le champ naturel de l'aimant brut, hyper puissant, réapparaît instantanément, comme si de rien n'était.
Donc, on peut rendre un aimant invisible sur commande et le faire réapparaître quand on veut. C'est juste spectaculaire. Mais en lisant l'architecture, j'ai vu que ça ne réglait pas tout à fait notre problème de base.
Ah.
Bah oui, tant que le circuit électrique de la bobine est fermé, le fameux frein invisible, le bac EMF, il va continuer à s'appliquer, non? Même si on joue à cache-cache avec les aimants, l'élastique sur le vélo va tirer.
Et bingo, c'est exactement le piège dans lequel plein de chercheurs sont tombés avant eux. Annuler le champ, c'est bien, mais ça n'empêche pas l'induction de se créer.
Voilà.
Si un autre aimant passe à côté de cette bobine pendant que le circuit forme une boucle fermée, un courant parasite va se former et hop, le frein s'active. La solution de Tétard, elle est radicale. Il faut sectionner physiquement le circuit. Faut ouvrir la boucle électrique pile au bon moment.
C'est une grosse différence de conception, ça. Pour imager, c'est comme un poste de radio. Il y a une vraie différence entre appuyer sur le bouton mute, où il n'y a plus de son, mais le circuit est toujours sous tension, et carrément arracher la prise du mur.
Exactement. Dans le premier cas, la boucle est fermée. Dans le second, on a un circuit ouvert. Plus un seul électron ne peut circuler. Physiquement impossible.
Donc le frein ne peut pas exister puisqu'il n'a pas de chemin pour passer.
C'est exactement ça. En ouvrant la boucle, on enlève au moteur sa capacité à devenir une dynamo.
Mais attends, couper un courant hyper fort d'un coup sec comme ça, c'est pas risqué techniquement?
Si, carrément. C'est un défi technique énorme à cause de ce qu'on appelle le pic de tension.
Ah oui, c'est un peu comme, tu sais, essayer de claquer violemment une porte super lourde alors qu'il y a un énorme courant d'air.
Bonne image.
L'énergie dans la bobine, elle veut sortir. Ça fait une grosse étincelle, un pic qui peut griller tout le système, non?
Oui, on appelle ça la tension de flyback. Mais la parade, c'est de l'électronique assez standard au final. Ils mettent des composants de protection, genre des diodes de suppression.
Pour absorber le claquement de porte.
C'est ça, il dissipe l'énergie de façon sécurisée et une fois que cette surtension est gérée, on a un système où le courant sert uniquement à éteindre l'aimant et l'ouverture du circuit tue le frein en l'œuf.
Bon, là, on a toutes les pièces du puzzle sur la table. On a l'aimant invisible, le circuit ouvert, mais pour faire avancer une voiture ou, j'en sais rien, faire tourner une machine à laver, faut assembler tout ça dans un moteur.
Et c'est là qu'on entre dans la danse des aimants.
La danse des aimants, j'adore le terme. Comment ça s'organise à l'intérieur du carter?
Alors, c'est un vrai modèle d'équilibre. Imagine deux électro-aimants, avec chacun leur noyau en néodyme. Ils sont placés pile face à face.
Ok.
Il y en a un qui est fixe, sur le stator, et l'autre est sur la partie qui tourne, le rotor. Et pour qu'ils réagissent à la microseconde près en même temps, ils sont connectés par un contact glissant.
Comme les balais de charbon dans les vieilles perceuses, hein.
Exactement ça. L'impulsion électrique traverse les deux bobines en même temps.
D'accord. Mais si on les met face à face, on se retrouve avec quatre pôles magnétiques en même temps. Les deux de l'aimant fixe et les deux de l'aimant mobile. C'est pas un chaos magnétique absolu, ce truc.
Eh bien non, et c'est là que ça devient de l'art. En configurant ces quatre pôles très précisément, on obtient un état d'équilibre parfait quand on magnétise.
Un équilibre parfait?
Oui, quand le courant passe et que les champs s'annulent, les forces d'attraction et de répulsion entre stator et rotor s'annulent avec une précision dingue. La somme de toutes ces forces, c'est zéro. Ni traction, ni résistance.
Waouh! Pour bien saisir, c'est comme un tir à la corde géant.
Ouais.
Avec quatre équipes super musclées, identiques, qui tirent dans quatre directions opposées. Chaque équipe déploie une énergie de malade, mais au centre, le nœud de la corde bouge pas d'un millimètre.
Personne gagne, personne perd.
C'est ça. Mais et là, il y a un problème de logique flagrant pour moi. Si tout s'annule et que les forces sont à zéro, comment ça tourne? Comment tu crées du mouvement avec un bilan de force égal à zéro?
Ah, l'astuce, c'est la gestion du temps. C'est le séquençage.
C'est-à-dire?
Ça ressemble beaucoup au cycle d'un moteur à explosion classique, genre le moteur d'une voiture thermique. Tu vois ce qu'est le point mort haut d'un piston?
Oui, la fraction de seconde d'équilibre, où le piston est tout en haut, juste avant de redescendre.
Voilà. Eh bien, dans le moteur Infine X, on a un cycle en quatre étapes microscopiques. Étape 1, on envoie l'impulsion électrique, les champs s'annulent, la résistance tombe à zéro.
Donc le rotor glisse vers ce point moreau, juste avec son inertie, en roue libre.
Exactement, sans aucune friction magnétique. Ensuite, étape 2. Pile au moment où le rotor dépasse ce point d'équilibre, le contact glissant ouvre physiquement le circuit.
On arrache la prise.
On arrache la prise. Et là, étape 3, c'est l'explosion.
L'explosion magnétique.
Sans courant, l'annulation disparaît, les champs naturels des deux aimants en néodyme reviennent en une fraction de seconde, et comme ils ont été placés en configuration de répulsion totale, ils se repoussent avec une violence inouïe. Ça projette le rotor vers l'avant.
Donc c'est le claquement de la répulsion qui donne la vraie force motrice.
C'est ça. Et enfin, étape 4, le rotor continue sa course sur sa lancée, jusqu'au prochain point de rencontre, le circuit se referme, on renvoie le courant, et le cycle repart.
Zéro résistance, coupure, explosion de répulsion et rebelote.
Voilà.
C'est un changement de paradigme complet sur ce qu'est l'électricité, en fait. Depuis deux siècles, on s'en sert comme force brute, comme le muscle qui pousse le rotor.
Oui.
Et là, l'électricité est complètement dégradée. Elle n'est plus le muscle, c'est juste devenu l'interrupteur.
Exactement. Son seul job, c'est de neutraliser la résistance un bref instant, puis de s'effacer pour laisser la puissance millénaire des aimants faire le gros du travail. Elle autorise l'action, elle ne la crée pas.
C'est fascinant. Mais bon, avec une architecture qui remet en cause un siècle et demi de conception, on ne peut pas juste applaudir sur le papier, que dit la communauté scientifique de tout ça? Parce que contourner le bac EMF, ça sonne quand même vachement comme une machine à mouvement perpétuel, l'hérésie suprême en physique.
Je suis d'accord, et c'est pour ça que l'approche des concepteurs est hyper prudente. Et c'est ce qui leur donne de la crédibilité. Ils disent très clairement qu'ils ne brisent pas les lois de la thermodynamique.
D'accord.
La loi de Lenz de 1834, elle reste 100% vraie. Ce qu'ils font, c'est modifier mécaniquement l'environnement pour que cette loi ne s'applique plus.
C'est une sacrée nuance.
Oui, la règle existe toujours, mais le moteur refuse de jouer sur le terrain où elle s'applique.
Esquiver le mur, c'est pas dire que le mur n'existe pas. Mais du coup, sur la création d'énergie, si on enlève le frein, le moteur produit plus qu'il consomme ou pas?
Alors là, Faraday Labs trace une ligne très nette. D'un côté, on a la suppression du frein, le bac IMF. Ça, c'est mesurable, documenté, c'est de l'ingénierie validée.
Ok, c'est prouvé.
Par contre, l'idée que le système soit surunitaire, donc il génère plus d'énergie globale qu'il n'en consomme, ça reste au stade de l'investigation. Il faut séparer l'innovation mécanique de ces observations thermodynamiques encore inexpliquées.
C'est pour ça qu'ils ont choisi une méthode de publication assez radicale d'ailleurs. Au lieu de verrouiller ça derrière 50 brevets industriels...
Ouais, tout est public.
C'est fou. Tout le protocole, le câblage, les réglages des oscilloscopes, c'est du matériel open source en fait.
C'est la seule façon pour une technologie aussi disruptive de survivre. Ils disent à la communauté, prenez nos plans, cherchez l'erreur, et si vous en trouvez pas, aidez-nous à optimiser le truc.
C'est brillant. Et si on extrapole, disons que cette technologie se déploie à grande échelle, les bouleversements seraient gigantesques. Rien que pour l'industrie de la voiture électrique, si le moteur lutte plus contre lui-même à haute vitesse.
L'efficacité explose.
Ce qui veut dire qu'on aurait besoin de batteries beaucoup, beaucoup plus petites pour faire la même distance.
Absolument. Et réduire la taille des batteries, c'est réduire notre dépendance au cobalt, au lithium, aux métaux rares.
C'est un impact écologique et géopolitique majeur, direct.
Et ça va bien au-delà des voitures. Pense à l'électroménager.
Ah oui, les frigos.
Les frigos, les pompes à chaleur, la climatisation, tous ces trucs utilisent des moteurs qui subissent le même frein. Avec Infinix, la consommation des foyers chuterait d'un coup, sans que personne n'ait à changer ses habitudes.
Et dans les pays en développement, ce serait dingue. Alimenter une pompe à eau pour l'agriculture ou un frigo pour des vaccins dans un village isolé.
Avec un petit panneau solaire qui suffit amplement, puisque le moteur ne gaspille plus l'énergie.
Exactement. Et à l'échelle globale, des moteurs industriels sans cette friction interne, ça veut dire une baisse énorme de la demande électrique. Donc moins de centrales au charbon ou au gaz pour stabiliser le réseau. C'est vertigineux.
C'est pour ça que c'est si important. En résumé, on n'a pas affaire à de la science-fiction. C'est une réorganisation audacieuse de principes physiques qui a plus d'un siècle. La superposition pour masquer les champs, l'ouverture de la boucle au bon moment, l'électricité n'est plus qu'un déclencheur qui libère la puissance des aimants.
Le frein est vaincu par l'astuce. Franchement, c'est déjà une avancée colossale. Mais, et là je repense à un truc à la toute fin des données de laboratoire, il y a une dernière observation qui pousse la réflexion encore plus loin. On disait tout à l'heure que, pendant certains tests poussés, ils ont enregistré des excédents d'énergie inexpliqués.
Oui.
Le système semblait dégager plus de puissance mécanique qu'il ne devrait, même en comptant l'absence du frein.
C'est là qu'on touche à la physique fondamentale. Les chercheurs ont émis une hypothèse très osée pour expliquer ce gain. Vu qu'on ne peut pas violer la conservation de l'énergie, ils suggèrent que cette architecture mécanique arriverait par une sorte de résonance magnétique complexe à puiser dans une énergie ambiante non cataloguée.
Waouh ! Une énergie ambiante latente partout autour de nous.
Qu'elle intégrerait dans son cycle.
C'est le genre de pensée qui redéfinit totalement comment on voit l'espace et la matière. Ça donne vraiment envie de surveiller de très près les prochains rapports des laboratoires indépendants qui vont tester ça.
Carrément.
Eh bien écoute, la prochaine fois qu'on affirmera qu'une loi scientifique est un mur de briques impossible à franchir, imaginons juste un vélo, un élastique et un interrupteur magnétique capables d'éteindre la friction du monde. Parfois, on n'a pas besoin de détruire le mur, il suffit juste de trouver le bon angle pour voir qu'il y a toujours une porte.